Eh bien, bonjour à tous. Bon, il est très tôt le matin. Je suis en direct, mais en différé pour vous, avec Pierrick Messiaen, qui est venu gentiment et vraiment beaucoup, beaucoup de courage et d'abnégation et de gentillesse. Vous pouvez pas imaginer pour venir participer avec nous et nous parler un petit peu de son site web qui s'appelle Le Souffle Numérique, qui est en fait un blog et plus que ça. C'est un passionné que je pense que je le remercie assez et encore plus. Et je vais le laisser se présenter. Alors, Pierrick, qui es-tu? Quel est ton parcours?
Salut Raluito, ben, merci pour l'invitation déjà.
De rien.
Donc pour me présenter, donc je m'appelle Pierrick Messiaen, j'ai 27 ans. À la vie en fait, je suis rédacteur web, donc j'écris des articles pour les sites internet. Mais à la scène entre guillemets, je suis aussi auteur indépendant. J'ai créé en 2011 un blog qui s'appelle Le Souffle Numérique, qui contient pas mal de conseils d'écriture ou de conseils en auto-édition ou en livre numérique, destinés aux jeunes auteurs qui cherchent à s'auto-éditer sur Internet.
Et donc vas-y, ton blog, alors le blog Le Souffle Numérique, on a vu bon, que ses objectifs, il a un peu nous les résumer. Le fonctionnement en tant que tel, c'est quoi exactement? Je veux
Ah.
dire, en ce qui concerne les sorties, en ce qui concerne ton mode de travail, comment tu choisis tes articles, tout ça.
En fait, le souffle numérique en fait se sépare en fait en différents thèmes. Donc il y a des thèmes qui sont conseils d'écriture, donc comment écrire un roman, donc avec des conseils tels que comment créer ses personnages, comment débuter un roman. Après j'ai une partie qui est plus dédiée à l'édition numérique en tant que telle, donc plus présenter l'édition numérique, en quoi ça consiste, comment publier un livre numérique. Et ensuite j'ai aussi une partie qui est consacrée donc à l'auto-édition, donc au fait d'éditer soi-même ses livres. Et donc là sont encore en fait des conseils pour les auteurs. Comment créer un livre numérique, comment trouver des lecteurs, comment le vendre en ligne. Donc voilà, dans l'ensemble, en fait, c'est un peu un outil en fait pour les auteurs qui chercheraient soit à écrire des livres de la meilleure manière qui soit à les présenter, à les mettre en vente.
Mais on peut dire que, est-ce que c'est un petit peu le fait que tu sois toi-même auteur, que donc tu partages un peu ce côté-là, mais est-ce que tu partages en fait plus que ça? Je veux dire, tu partages là, on dit, tu dis, ouais, voilà comment il faut écrire, voilà comment je peux décasser pour ci, pour ça. Est-ce que tu donnes comment je peux, on parle dedans, il y a des trucs sur, certes, plagiat inspiration, il y a aussi peut-on se faire voler son roman, il y a aussi les modèles économiques de sortie de livres. C'est quand même assez large, on va dire. T'es presque en train de leur tenir la plume, les gens. Est-ce que c'est un peu les problèmes que tu as vécu toi, en gros?
Oui, en fait, dans un sens, ouais, effectivement, j'utilise aussi. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais j'utilise aussi le souffle numérique pour proposer et vendre mes propres livres numériques. Donc, ouais, effectivement, on va dire mon parcours d'auteur m'a aidé en fait à trouver les problématiques, à trouver les thématiques qui peuvent justement intéresser une personne qui est en train d'écrire un livre ou qui hésite encore à finir son livre, à l'écrire, ou qui sait pas encore s'il doit aller contacter des éditeurs ou s'il doit chercher à s'auto-éditer. Donc ouais, effectivement, moi il y a pas mal de problématiques ou de entre guillemets d'épreuves que j'ai vécues et du coup que j'ai retranscrit sous la forme de didacticiel ou sous la forme d'articles thématiques voilà, pour évoquer l'expérience et peut-être pour aider les auteurs qui chercheraient à être un peu guidés.
On peut dire d'ailleurs un truc qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder, c'est que toi, tu écris depuis très longtemps. Le souffle numérique, c'est seulement un aboutissement, en fait, pas de vie d'écriture, mais presque, quoi, de lecture et d'écriture, non?
Bah, effectivement, en fait, pour me présenter plus en détail, moi, j'écris depuis que je suis tout petit, en fait. Enfin, je pense que tous les auteurs, te diront ça. J'écris depuis que je suis tout petit. Mais voilà, j'ai toujours été passionné par l'écriture. Après, voilà, il se trouve que, avec mes expériences professionnelles, en fait, j'ai eu la chance de travailler, en fait, pendant un an, pendant une année de césure. Au sein de la plateforme YouScript, donc qui est une entreprise française qui propose la publication et la vente de livres numériques. Donc c'est ça qui m'a en fait intéressé à la fois aux livres numériques, mais aussi à l'auto-édition en fait. Et donc du coup je me suis renseigné un peu sur tout ce qui était justement auto-édition numérique et tout ça. En fait ça m'a incité dans un sens en fait à pas à écrire mais justement à publier mes textes en fait à les présenter à des lecteurs en ligne en fait que ce soit gratuitement ou de manière payante et donc voilà effectivement je pense que le déclic pour moi de mettre mes livres en ligne ça a été vraiment l'opportunité du numérique j'ai envie de dire le fait que je découvre qu'on peut très facilement mettre un roman en ligne pratiquement gratuitement. Et justement, voilà, moi, quand j'ai découvert tous ces outils qui étaient à la portée d'un auteur indépendant, j'ai eu l'envie, voilà, d'expérimenter. J'en ai profité, j'ai profité de l'occasion pour partager mes expériences et pourquoi pas aider ceux qui sont dans mon cas.
Alors justement, parlons du fond de la boutique, hein, le cœur de métier. Qu'est-ce que tu peux dire l'auto-édition? Pourquoi est-ce qu'on choisirait l'auto-édition? Pourquoi un auteur choisirait l'auto-édition plutôt que d'aller vers une maison d'édition? Certaines réponses peuvent paraître simples, mais vous verrez que c'est pas si simple. Et j'ai envie de dire, ensuite, une fois qu'on a vu le pourquoi de l'auto-édition, j'ai envie de dire le pourquoi et les avantages du livre numérique. C'est un peu juste, c'est ce qui est différent à l'origine devient un corollaire l'un de l'autre. Je te laisse parler.
Non, ouais, effectivement, je pense que tu as raison de faire cette relation donc entre l'auto-édition et numérique parce qu'aujourd'hui c'est assez proche l'un de l'autre. Je pense que bah, c'est intéressant déjà de rappeler un peu ce que c'est l'auto-édition en fait aux auditeurs. Tout bêtement, l'auto-édition c'est le fait de s'éditer soi-même. Donc c'est le fait pour un auteur de prendre en charge en fait tout ce qui concerne l'édition d'un livre, c'est-à-dire de s'occuper à la fois de l'écriture bien sûr, mais aussi de la relecture, de la mise en page. Voilà de plein de choses mais surtout bien sûr de rendre le livre accessible au lecteur et donc voilà un auto-éditeur en fait décide de prendre toutes les choses en main quand il est en tant qu'auteur de prendre toutes les choses en main pour que son livre soit accessible au lecteur et donc ce qui est loin d'être une tâche facile parce qu'il faut vraiment avoir plusieurs casquettes et avoir pas mal de compétences. Et donc voilà, à une époque, l'auto-édition était assez inaccessible en fait en termes de prix parce que avant l'ère du numérique, bien sûr le livre était papier, le livre a toujours été papier. Et pour un auteur qui souhaitait vendre ses livres, ce qu'il devait faire, c'est aller consulter un imprimeur, lui dire bonjour, j'aurais besoin de 500, 1000 exemplaires de ce livre-là. Forcément, l'imprimeur, lui, c'est son métier, imprimer les livres, mais ce n'était pas gratuit. Il fallait mettre 2 000, 3 000 euros pour avoir un stock de livres. Et après, voilà, l'auteur allait voir les libraires, en fait, leur disait, voilà, je suis auteur auto-édité, voici mon livre, est-ce que vous pourriez le vendre à vos clients? Et donc, ce que les libraires pouvaient ou non accepter, généralement, ce que les libraires décidaient de faire en ce qu'on appelle dépôt-vente, c'est-à-dire qu'ils acceptaient le livre papier, mais voilà, ils ne le payaient pas en fait. Et si quelqu'un achetait le livre, voilà, ils rendaient la part d'argent méritée par l'auteur en fait.
Et le livre
Mais
aussi, d'ailleurs l'emplacement, il y avait tout un débat sur les librairies parce que où est-ce qu'il va être placé? Donc, il est rarement placé en tête de gondole, hein, plutôt placé au fond, avant des toilettes. Et c'était tout le problème parce que du coup, tu te retrouves à avoir un livre qui va plus ou moins pas se vendre avec de l'argent que tu as dépensé, que tu vas qui sert à rien en fin de compte. Et j'ai envie de dire, t'es malheureux aussi parce que quand tu mets ça dans une librairie ou deux ou trois ou même dix librairies, j'ai envie de dire, ça reste 10 librairies. Donc, tu es lié aux gens qui vont passer devant ton bouquin dans cette librairie. Et ça limite pas mal le nombre de gens.
effectivement, d'autant plus que là où un éditeur il va bien vendre ses livres, il va expliquer à l'auteur ce qu'il y a dans les livres. Je pense que, enfin, au libraire plutôt ce que le livre contient. Je pense qu'un libraire qui est face à un auto-édité, en fait, il se dit un peu, ouais, il y a quand même des chances que ce soit pas très bien. Il va pas forcément prendre le temps de lire le livre et forcément, s'il ne l'a pas lu, il peut pas le présenter à ses clients. Donc ouais, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant ou en tout cas qui l'était, enfin qui peut toujours l'être. Et que voilà, et pas forcément, c'est pas forcément toujours facile pour un auto-édité complètement inconnu qui n'a pas d'amis libraires de se vendre en fait. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et justement, pour revenir sur tout ce qui est édition numérique, et pour faire le rapport avec l'auto-édition, c'est pour faire simple, l'édition numérique, c'est l'idée de proposer un livre en format numérique. Donc, qui peut être lu sur un ordinateur, sur une tablette ou encore sur un livre électronique, donc ce qui s'appelle une liseuse. Et voilà, ce nouveau format de livre en fait a permis en fait aux auto-édités grâce à des plateformes de vente telles que Amazon Kindle par exemple de vendre bien plus facilement leur livre, en fait. L'auto-éditer, au lieu d'avoir à imprimer son livre, à investir une fortune dans son livre, il a juste, en fait, à créer un format numérique, donc ce qui nécessite quelques connaissances techniques, mais qui n'est pas forcément très coûteux. Et une fois que le format numérique de son livre existe, il va simplement voir les plateformes et il peut mettre son livre en vente gratuitement, en fait. C'est fait de telle manière, par exemple, si vous passez par Amazon et que vous vendez sur Amazon, Amazon va prendre un certain pourcentage du prix du livre à chaque vente. Donc, ce qui est un pourcentage qui est généralement aux alentours de 30%. Et c'est bien que vous mettez gratuitement le livre en ligne, quelqu'un l'achète, Amazon prend une petite partie et vous rend le reste. Donc, ce qui est bien que ça ne vous coûte, ça ne, enfin, virtuellement, ça ne vous coûte rien. Donc, forcément, pour un auto-édité, le numérique est devenu une vraie opportunité parce que c'est beaucoup plus simple à la fois de rendre un livre accessible au lecteur, mais c'est aussi beaucoup moins coûteux.
On peut préciser que plusieurs détails. D'abord, en ce qui concerne Amazon, donc c'est un petit peu une forme de dépôt-vente en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un dépôt-vente au niveau mondial, c'est d'autant plus intéressant. Et sans forcément défaire le travail des libraires, hein, de quartier, faut pas dire ça non plus. C'est d'abord un combat, il y a un combat et je veux pas me participer à ce combat du tout.
Tu vas te
Mais
faire incendier.
c'est clair. Mais autre chose, la différence entre une liseuse et une tablette, préciser pour ceux qui ne savent pas, la liseuse en fait, elle fonctionne de ce qu'on appelle de l'encre électronique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les montres à quartz dans le temps. Il y a juste la typo, le texte qui apparaît, le fond gris, et il faut une lumière à côté pour lire ce qui est marqué dessus. Sans lumière, ça provoque pas de lumière. Sans lumière extérieure, sans petite lampe à côté ou jour, n'importe quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que comme ça, vous pouvez aller en plein soleil, en plein cagnard, à 2 heures de l'après-midi à Cannes, vous verrez très très bien votre livre numérique. Alors que votre tablette, elle, à l'inverse, certes, elle fonctionne très bien en lumière, enfin, elle fonctionne avec sa lumière à elle, mais par contre, si elle a un gros reflet dessus, vous y voyez rien. Et en plus, elle consomme plus de courant. C'est beaucoup plus long. Elle est plus
Et
lourde et plein de choses. C'est pas le même
au-delà de ça,
objectif.
c'est ça, au-delà de ça aussi, si je puis ajouter, si vous êtes du type réfractaire en fait à tout ce qui est livre numérique, faut aussi comprendre que la liseuse, en fait, contrairement à une tablette ou un écran d'ordinateur, en fait la liseuse n'est pas rétroéclairée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait un éclairage qui vient directement gêner votre vue. Ce qui fait que la différence, c'est lire longtemps sur une tablette ou sur un ordinateur, forcément, ça finit par vous abîmer les yeux, tandis que lire sur une liseuse, moi, je vous conseille ne serait-ce que de tester un magasin, c'est exactement la même sensation qu'un livre. Donc, il n'y a pas énormément de différence et ça ne nuise pas à vos yeux.
Alors, bon, là, je vais être chiant avec Pierrick, parce que je précise des détails qu'il faut quand même mettre en point. D'abord, les liseuses ont maintenant des rétroéclairages. Il y a le modèle paper machin bidule, et en fait, ils ont mis des petites lumières sur le côté à l'intérieur de la liseuse. Ça, c'est la
Oui,
première chose.
effectivement.
Comme pour les montres à quartz, avec la petite lampe, tu sais, c'est vraiment pareil. Et ils ont fait ça avec. Et deuxième point, il y a les systèmes, je crois que je sais pas si Google le fait, mais Apple le fait. Ils ont un système maintenant de lecture qui permet, tu peux l'affichage, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais, c'est trop bien, c'est fond noir et typo écrit en blanc. Et du coup,
Ouais.
ça rend beaucoup moins de lumière. Alors, problème, je précise tout de suite aux gens, avant qu'ils se disent miracle, un écran qui balance du noir n'est pas un écran qui balance pas de lumière. C'est-à-dire que même s'il est noir, dans le noir absolu, vous verrez que ça envoie un bleu foncé, en fait, mais il y a toujours une lumière, même s'il affiche du noir. Il affiche du noir, mais c'est une couleur pour lui. Donc, du coup, faut faire gaffe. C'est vrai que ça, c'est déjà mieux pour les yeux, mais il y a clairement, si vous êtes du genre comme moi, à lire le soir avant de vous endormir un petit bout de votre roman ou pas du vôtre, hein, non, un petit bout d'un roman ou quelque chose comme ça, quoi, pourquoi, mais bon, un petit bout d'un bouquin avant de dormir, c'est clairement pas un iPad qu'il vous faut, c'est plutôt une liseuse ou un bouquin. Moi, si vous n'avez pas le bouquin, vous êtes liseuse, il n'y a pas de problème, mais la liseuse, vous aurez le même confort à peu de choses près. C'est juste pour savoir ça, je précisais en passant. Oui, d'ailleurs, je continue. Pauvre Thierry,
Non, tout
et je
à
le
fait, tu as
laisse,
raison.
et je le laisse, c'est ça. Donc, on a vu donc le livre numérique, le pourquoi, le comment. Le livre numérique, petit avantage, il peut mettre des images aussi, vous pouvez mettre de l'interaction, vous pouvez faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut faire gaffe, il y a des formats. Je me permets juste de partager 10 secondes encore un coup, parce qu'après, les gens qui nous écoutent vont dire, Raoult, c'est toujours pareil, il interviewe quelqu'un, puis c'est lui qu'on entend le plus. Mais il a le côté, les livres numériques, vous pouvez rendre tout un système interactif avec. Que maintenant c'est des formats, le problème des formats, parce que certes, si Apple, l'exemple type, ils ont un logiciel qui fait ça extrêmement bien, mais le problème c'est qu'après ils ne se lésinent que sur des trucs Apple. Donc ça c'est un gros problème. Si vous voulez faire un truc plus large, bah vous diminuez. Amazon a le même problème. Amazon, ils ont un format en gros qui est valable pour les éditeurs, les vrais, hein, les maisons d'édition, où tu peux mettre plein de choses dedans. Et ils ont un format basique, l'ancien en fait, qui est valable pour tout le monde. Ceux qui auto-éditent aussi, c'est pareil. On n'a que l'ancien format, on n'a pas le nouveau. On a le point MOBI pour ceux qui connaissent. On n'a pas le point SZWX, je ne sais plus comment il s'appelle. On peut les créer nous-mêmes, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas les publier. Après. Donc, voilà, c'est simple. Ça, c'est des choses, tout un côté technique comme ça qu'il faut savoir. Mais moi, je dis, et là, je reviens complètement à ce qu'il disait notre ami Pierry, comparé à ce que ça coûterait de faire de l'auto-édition par un imprimeur. Comparé au temps que ça vous a pris à écrire votre bouquin, parce qu'on va peut-être en parler, mais ça prend du temps. Franchement, passer 2 jours, 2-3 jours à essayer de se casser la tête pour comprendre comment ça marche, il n'y a rien de technique. Il n'y a rien, c'est pas plus compliqué que de remplir sa feuille d'impôt. Et croyez-moi, on sait tous que c'est pas facile. C'est pas plus compliqué. Franchement, il faut juste se renseigner, regarder, comprendre, tester. Ça craque, on refait, ça marche pas, on refait, et là ça marche, etc. Avoir un téléphone ou un pad à côté pour tester un petit peu ce que ça donne. Et vous verrez que vous y arriverez. Moi, avec Red Universe, on le met sur 4 plateformes différentes et c'est prévu d'augmenter encore. Ça a été un casse-tête au début. Maintenant, c'est juste long et chiant, mais c'est tout. Après, il n'y a rien, il n'y a pas de technique. D'ailleurs, maintenant, les gens ils viennent poser des questions. Comment on fait? Je dis, faut un peu d'huile de coude, quoi. C'est comme tout, hein. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je poursuis. Maintenant, on sait qu'on a expliqué aux gens un peu pourquoi l'auto-édition et l'avantage du livre numérique. Est-ce que tu penses, Spiri, qu'on peut en vivre, un auteur peut en vivre, et a fortiori, qu'il puisse ou non en vivre, et qu'est-ce que ça peut apporter comme avantage de s'auto-éditer?
C'est toujours une question délicate, en fait, de parler de vivre de ses romans. De manière concrète, non, je pense pas qu'on puisse forcément en vivre. Enfin, c'est possible d'en vivre, on va dire, mais il faut bien comprendre, si vous tenez en fait à vivre de vos écrits ou de vos livres numériques, que c'est un travail à plein temps en fait, parce que en tant qu'auto-éditeur par exemple, vous devez endosser toutes les casquettes. Donc voilà, comme le disait Raoulito aussi, le point de vue technique, enfin lui-même qui a mis en ligne son ebook sur toutes les plateformes, sait à quel point ça peut être complexe de s'adapter à chaque plateforme. Mais après voilà, il y a aussi tout le point de vue marketing, faire de la vente, enfin bref, c'est un travail complet. Et je pense que l'un des secrets aussi pour vraiment faire de l'argent avec les livres numériques, c'est d'avoir un rythme de publication qui est très régulier. Parce que voilà, plus vous avez de livres en fait, enfin chaque nouveau livre en vente sur une plateforme comme Amazon en fait est une porte au nouveau lecteur en fait. C'est-à-dire que si vous avez 15 livres, un lecteur découvre l'un de vos livres et qu'il l'adore, potentiellement il peut acheter les 14 autres. Donc voilà, la difficulté, je pense, pour en vivre, c'est que vraiment il faut suivre certaines techniques, il faut travailler beaucoup, il faut publier beaucoup en fait. Et voilà, certains auteurs numériques, il y a pas mal d'auteurs numériques qui essayent en fait de faire certaines stratégies. Par exemple, là, je pense à Jeff Balek en fait avec sa série Le Wild Ganger, qui a créé en fait qui a créé un livre en fait en différentes parties. Donc chaque partie est assez rapide à lire, donc ce qui est très pratique en format numérique, parce que voilà, si vous êtes dans le métro, vous pouvez lire une partie en une journée. Mais voilà, l'avantage pour lui, c'est que du coup chaque partie est en vente, et voilà, ça lui permet de faire des publications régulières, de créer de l'intérêt et aussi bien sûr de vendre plus. Donc voilà, pour conclure sur le sujet, effectivement le livre numérique en fait, le format numérique peut aider en tout cas un auteur à soit gagner plus d'argent, mais aussi et surtout d'avoir moins d'investissement en fait. Ce qui fait qu'effectivement on peut se créer un petit revenu en fait complémentaire grâce à ça. Après, pour en vivre, c'est un peu plus compliqué. Mais si on prend l'exemple américain, effectivement il y a des auto-édités qui sont devenus riches grâce à Amazon, qui ont maintenant leurs livres adaptés au cinéma. Mais voilà, ce sont des cas particuliers.
Il y a, faut quand même juste en passant, puisqu'on parle un peu du système économique, faut rappeler que les livres numériques, en tout cas, la plateforme Amazon, on prend toujours ça comme référence, c'est un peu logique, c'est les premiers, mais le prix d'un livre numérique auto-édité, donc quelqu'un qui n'est pas connu, ça tourne autour de 1-2 euros maximum, hein, 1 euro, 2 euros, n'allez pas beaucoup plus haut, parce que au-delà, vous allez commencer à tomber sur des prix de bouquins qui ont à peu près, à partir de 3-4 euros, vous tombez sur des bouquins qui sont déjà connus, qui ont leur pendant, qui ont une édition, une maison d'édition derrière et leur pendant papier, et n'allez pas vous mettre au même prix, vous n'aurez ni autant de pages et a fortiori pas autant de logique. Alors évidemment, tu me diras, c'est terrible parce qu'on se retrouve à devoir nous-mêmes quantifier le prix de ce que c'est, enfin le coût, ou ce que ça vaut en fait, le produit qu'on fait. Avec Pierrick, hein, précédemment, on va dire, on en parlait, le fait de quand tu crées quelque chose et que tu le mets en ligne, tu as forcément une idée, j'ai dû faire un truc horrible, mais pourquoi je le mettrais en ligne? Alors bon, à un moment, il faut avoir assez de... de confiance en soi, de, j'ai dire un peu
Ce discernement.
de... Non, 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 j'ai plutôt envie de dire de... Ah, j'ai oublié de perdre le mot. Enfin bon, d'avoir un peu les chevilles qui pètent, qui enflent en se disant je vais y arriver parce que je suis très bon. Ça fait aussi partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, bien sûr.
Ouais,
Hein.
il faut savoir maîtriser quand même.
Voilà, bah, faut oser, on va dire c'est ça, faut oser, faut pas avoir peur de le faire. Au pire, ça marche pas, de toute façon, c'est tout. Et puis ce qui est bien, ah oui, un autre truc bien aussi en ligne, c'est qu'on peut les enlever. On peut les enlever, on peut les modifier, on peut faire une mise à jour sur votre
Ouais,
bouquin qui sera mis à jour chez les
effectivement.
gens. Ça, c'est un truc bien, bien pratique.
Bah, c'est très intéressant sur les ouvrages. Il y a pas mal d'ouvrages techniques qui se mettent à jour du coup, enfin d'ouvrages de référence du style comment utiliser un logiciel qui peuvent se mettre à jour en fait. Et maintenant, on trouve même dans l'édition papier des livres qui disent voilà, là vous avez aussi accès à l'édition numérique qui sera mise à jour régulièrement.
Ah, bah oui, tiens. Alors bon, bah, continuons, hein. C'était la petite parenthèse. Bah justement, on parlait donc des maisons d'édition. Alors, Pierrick, tout le monde sait que tu roules en Ferrari et que tu fais le tour du monde.
Effectivement.
Alors, donc, tu as visiblement des contacts très riches avec les maisons d'édition et probablement les autres blogueurs. Je ne sais pas si eux sont riches. Comment comment c'est perçu les auto-édités par le milieu classique littéraire? On va dire milieu classique.
Non, ouais, en fait, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Moi, en fait, avec mon blog, au final, ouais, j'ai effectivement accès à certains contacts, mais après, c'est loin d'être. Je suis loin de rouler en Ferrari ou d'avoir accès au
Le
grand nombre
dernier Harry
d'éditions.
Potter, tu l'as pas eu en avant-première?
Ah non, malheureusement, non. J'ai dû attendre comme tout le monde. Non, en fait, j'ai surtout accès, en fait, j'ai surtout des contacts avec ben, d'autres auteurs indépendants, et ce qui est très intéressant, parce que chaque auteur indépendant a ses méthodes, chaque auto-édité peut avoir ses plateformes, ses conseils, donc voilà, c'est toujours intéressant de parler avec d'autres gens, en fait, il faut bien comprendre que ce sont pas des concurrents, en fait, ce sont des collègues. Et après, voilà, j'ai aussi des contacts avec tout ce qui va être éditeur numérique, en fait, parce qu'il existe des éditeurs, en fait, qui décide de publier pratiquement exclusivement en fait sous forme numérique et pas en papier parce que ça coûte aussi moins cher, donc ça peut être intéressant pour une petite structure. Sinon voilà, pour revenir sur le sujet de manière générale, sur les rapports entre l'auto-édition et l'édition, entre le numérique et l'édition, c'est toujours compliqué. Donc pour parler ne serait-ce que de l'édition numérique, sans même avoir de grands contacts au sein des grandes maisons d'édition, moi j'ai écrit un mémoire en fait que d'ailleurs je n'ai pas encore publié sur le justement ce rapport en fait entre les grandes de l'édition, donc les maisons d'édition, les cinq géants de l'édition en France, et le livre numérique. Et en fait, il faut comprendre que la technologie du livre numérique en fait est un peu en train de chambouler en fait le modèle économique de l'édition en général. Or, bah, les grandes maisons d'édition, elles, généralement, elles fonctionnent bien. Elles n'ont pas de problème. Enfin, leur modèle économique est plutôt stable et forcément, elles tiennent à conserver ce modèle économique. Donc, on ne verra jamais un grand éditeur avancer à fond vers le numérique ou tout faire en sorte pour que les gens achètent du livre numérique. Mais à côté de ça, bien sûr, les grandes maisons d'édition ne sont pas bêtes. Donc, forcément, elles investissent parallèlement dans le livre numérique. Elles se créent des plateformes de diffusion. Enfin, elles font en sorte que leurs livres soient disponibles. Mais aussi et surtout, elles font en sorte de pouvoir avoir les technologies et les plateformes pour diffuser leurs propres livres sur Internet. Mais voilà, pour l'instant, elles le font un peu à contre-pied et elles le font parce qu'il faut le faire, mais elles vont pas s'efforcer de mettre en avant le livre numérique, contrairement aux petits acteurs. Donc je parlais tout à l'heure là des éditeurs pure player, donc les éditeurs 100% numériques, qui eux vont plus mettre en avant le format numérique, le fait que ce soit un texte purement numérique. Donc là, ça c'était sur le sujet du numérique et de l'édition, et pour revenir sur le sujet de l'édition et de l'auto-édition, je pense que peut-être même les auditeurs ont des certains a priori sur l'auto-édition. Il faut bien comprendre que voilà, un auto-édité, c'est quelqu'un quand même qui publie son propre livre. Donc il y a une partie d'égoïsme, il y a une partie forcément qui peut être mal perçue. Je sais qu'en anglais on parle de vanity publishing, donc c'est l'édition de la vanité. Donc c'est quelqu'un qui s'aime tellement qu'il décide de s'éditer. Donc voilà, généralement il y aura certains a priori vis-à-vis des auto-éditeurs. On va dire ouais, leurs textes sont pas forcément bien, ils écrivent. Enfin voilà, personne les a acceptés, donc ils ont décidé de s'auto-éditer. Donc forcément là, si vous décidez d'éditer vous-même l'un de vos livres, vous aurez affaire à ces a priori, et je pense que c'est à vous de prouver que ces a priori sont faux.
Il y a un petit peu la logique aussi du marché. On est enfin du marché du de la On va dire du marché, ouais. C'est un peu comme la musique, ceux qui mettent, vous savez, on a déjà entendu, par exemple, Adèle qui s'est connue avec MySpace, elle avait mis son truc dessus et puis ça a été connu. On est exactement dans cet esprit-là. Et c'est vrai que je pense, et on avait parlé avant, il y a aussi une logique de ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'étranger. Dans le monde anglo-saxon, c'est un peu différent, où là, le milieu du livre numérique, a fortiori et de l'auto-édition aussi, a été beaucoup plus mis en avant et fonctionne et beaucoup plus fort. Je ne sais pas si tu as plus de retour
Ouais,
là-dessus.
non, ouais, effectivement, en fait, ce qu'il faut dire, moi, par exemple, j'ai lancé Le Souffle numérique en 2011, où en France, c'était une époque où le livre numérique, c'était pratiquement rien, quoi. Enfin, personne n'en parlait, on voyait pas trop de livres électroniques dans les métros ou quoi que ce soit, et progressivement, ça a évolué. Là, je suis sûr que si vous prenez le métro parisien, vous avez quand même une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui est en train de lire sur son Kindle. Mais voilà, en fait, en France, tout ce qui est lecture numérique, c'est encore très jeune en fait. D'autant plus que voilà, des fois on parle de l'exception culturelle française, l'attachement au livre papier. Voilà, c'est une thématique qui est très française. Tandis qu'aux États-Unis, voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a un énorme marché du livre numérique. Que les lecteurs sont beaucoup plus friands justement de livres numériques, donc forcément parallèlement, on trouve aussi plus d'auteurs qui publient uniquement en numérique. Et qui ont parfois fait des fortunes grâce à ça parce qu'ils ont fait énormément de ventes, notamment grâce à Amazon, et voilà, ont été rendus entre guillemets célèbres grâce à ça. Après, il faut bien comprendre que au-delà même de l'idée que le marché en fait est un peu plus mûr en Amérique, c'est aussi l'idée d'écrire en anglais. Forcément, si vous écrivez en anglais, vous avez une base de lecteurs, un public potentiel qui est bien plus grand que si vous écrivez en français, forcément.
Il y a oui non en fait ta dernière phrase du coup je voulais entamer sur un truc et ta dernière phrase m'a bloqué. C'est vrai que j'imagine écrire en anglais, moi je sais que je bosse avec des Américains, avant j'avais pensé un jour à me dire que si j'essayais de penser de peut-être et on se rend compte que rien qu'écrire en français c'est pas facile,
Ouais, c'est sûr.
alors en anglais bonne chance parce que là il y a anglais et anglais hein, c'est pas l'anglais Windows.
Non, tout à fait. Ouais, non, mais moi qui suis plutôt à l'aise en oral, en anglais, j'aurais pas idée en fait d'écrire mes textes en anglais parce que ça prend, ne serait-ce qu'en termes de temps, ça prend beaucoup plus de temps. Et après, je pense que à moins d'avoir un correcteur très fiable en anglais, il risque d'y avoir pas mal de fautes si vous êtes pas natif.
Oui, et puis ça va se sentir pas mal. Alors, justement, recentrons un peu sur ton temps à toi. Donc, tu avais dit précédemment qu'en fait, même si bon, tu es un auteur, ça c'est une base, et en plus tu fais le souffle numérique. Mais au fur et à mesure, tu en es venu à faire surtout le souffle numérique et un peu moins l'auteur. La preuve, il y a des corrections en attente depuis quelque temps. Dans le souffle numérique, donc qui est quand même là où c'est la raison aussi numéro un pour laquelle tu es là, quels sont les articles qui ont eu le plus de succès? Et j'ai envie de dire, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut parler on peut parler de succès? Moi, personnellement, je parle de succès, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je sais savoir, toi, à ton avis, est-ce que ton site, il a 6 ans, 5 ans, pardon, il a 5 ans,
Ouais, ça.
même pas, peut-être même pas, je ne sais pas,
Un peu
6-5
moins de
ans,
5
un
ans, je
tout petit
dirais
peu
4
moins
ans
de
et demi,
5 ans?
5 ans, on va dire.
Voilà, et déjà, il y a pas mal de commentaires, déjà, ça tourne bien, déjà, tu reçois des livres à checker quand même de temps en temps, dont un jour, tu as reçu le mien. Est-ce que par hasard, et quels sont les articles qui marchent le plus, et globalement, qu'est-ce qui marche le plus, en fait, dans le site?
Non, ouais, après, pour revenir sur le succès, je reste quand même assez modeste, hein, parce que c'est un succès qui est relatif, effectivement, en fait, mon. Je pense que j'ai l'avantage de traiter de thématiques qui sont pas forcément très traitées, notamment pas en français. Donc ouais, forcément, j'ai du succès majoritairement grâce à Google parce que j'écris sur des thèmes en fait qui vont toucher les auteurs, qui vont toucher les auto-édités. Et du coup, il y a pas mal de gens qui tombent sur mon site grâce à tout simplement à Google et qui voilà, qui des fois me remercient ou commentent en fait justement en arrivant de Google. Pour revenir après sur les articles qui marchent le plus en général, bah, c'est toujours délicat à dire parce que quand on écrit un article, on ne sait pas forcément la portée qu'il va avoir, enfin le nombre de fois où voilà, j'écris un article et je me dis oh, au final c'est pas si bien, je sais même pas si je vais le mettre en ligne. Mais voilà, généralement les articles qui marchent le plus sont les articles qui sont un peu thématiques ou un peu didacticiels. Donc par exemple, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, j'ai publié un article sur comment publier un livre sur Wattpad en fait. Wattpad, c'est une plateforme qui permet de mettre gratuitement des livres en ligne. Enfin, des textes en ligne et qui m'avait été conseillé par un autre auteur indépendant, donc Jean-Basile Boutac, Et voilà, qui est une plateforme qui marche très bien en Amérique, mais en France, il y a des auteurs qui écrivent dessus, il y a beaucoup de lecteurs, mais il y a très peu de contenu français. Le texte lui-même, en fait, enfin le site lui-même n'est pas vraiment traduit entièrement en français, si bien que créer un didacticiel en français, voilà, j'étais le premier en fait à proposer en fait un didacticiel clair qui expliquait pas à pas comment mettre un livre en ligne sur ce site américain. Après voilà, il y a aussi des articles qui sont peut-être sur des sujets un peu plus pointus, par exemple la typographie d'un dialogue, c'est un article qui marche pas mal, qui explique en fait comment mettre en page un dialogue. Je pense que voilà, toi-même tu sais que c'est pas si facile que ça d'utiliser les tirets, les guillemets et tout ça, quelles sont les règles, comment faire ça de manière correcte en fait selon la typographie française. Et voilà, c'est un article qui fonctionne aussi.
D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller voir. Il y a un site qui s'appelle latypographie.com ou un truc comme ça, qui est uniquement dédié aux tirets, guillemets, machin, bidule. Et
C'est toute une science.
toute une science, une science. Il y a aussi Peut-on se faire voler son roman, qui marche pas trop mal. Ça m'a fait rire quand même quand je vois les résultats au niveau des commentaires. C'est pas le plus connu, mais c'est marrant. C'est un qui tombe pas mal en fait. C'est rigolo.
Ouais, ces derniers temps. Ouais, non, surtout, il y a des commentaires. En fait, c'est... Ouais, voilà, peut-on se faire voler son roman? L'idée, c'est de partir du principe qu'il existe des systèmes de protection qui vous permettent de protéger votre roman en payant. Et l'idée, c'était juste de dire, est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce qu'il y a déjà eu une personne sur Terre qui avait volé complètement le roman d'un parfait inconnu pour l'éditer à son nom? Et oui, au final, c'est pas... Moi, c'est ce que je dis souvent, si vous avez peur que votre roman se vole, faut bien comprendre que... Un auteur quelconque a du mal à faire éditer ses propres romans. Donc pourquoi est-ce qu'il irait voler le vôtre pour le faire éditer? C'est relativement compliqué. Au final, on comprend que c'est un risque qui est relatif en fait. Donc ouais, effectivement, il y a pas mal de gens qui commentent et qui disent, ah, ça m'a rassuré pour mon roman. Merci de ces conseils.
Mais vraiment, je conseille aux gens d'ailleurs d'aller, bon, enfin, je le redirai à la fin, mais je conseille vraiment d'aller voir, il y a tellement de petits articles passionnants, il y a un flux RSS, vous abonnez, puis vous suivez. Maintenant, en tant qu'auteur-lecteur, depuis ta plus tendre enfance, quels sont les auteurs que tu conseillerais? On approche de la fin, alors bon, maintenant, on va se rapprocher un petit peu de toi. Toi, ce que tu conseilles aux gens, parce que je suis sûr que tu as des noms que tout le monde ne connaît pas.
Ben, dans les auteurs, on va dire un peu classiques, dans les auteurs édités, on dira. Moi, je recommande toujours, j'en parle souvent sur mon blog, Dino Buzzati, donc qui est un auteur italien du 20e siècle en fait, qui écrit notamment des nouvelles. Et voilà, si vous êtes intéressé par le genre de la nouvelle, si vous souhaitez écrire des nouvelles ou voir des nouvelles parfaitement écrites, enfin en tout cas d'après moi, je vous conseille vraiment Dino Buzzati parce que il a écrit des recueils comme Le Cas en fait, qui contiennent énormément de nouvelles. Et moi qui aime beaucoup ce genre littéraire, je sais que je prends beaucoup en exemple parce que pour moi voilà, ces nouvelles sont courtes, elles sont bien réussies, c'est tout le temps une thématique intéressante, intelligente, et tout le temps voilà avec une chute qui surprend. Voilà, je trouve que c'est l'un des meilleurs auteurs de nouvelles qui soit. Après voilà, pour prêcher un peu plus pour ma paroisse, je vais plus vous recommander des auteurs indépendants français, tant qu'à faire. Donc je pense que je parlais tout à l'heure de Jeff Balek, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très prolifique en fait. Jeff Balek, il a créé tout un univers en fait de fiction autour d'une ville qui s'appelle Humington. Et voilà, il crée autour de cette ville, il crée des vidéos, il crée des e-books, il crée des événements sur Twitter. Voilà, il a créé toute une petite communauté qui l'encadre, et en fait c'est très intéressant à examiner pour n'importe quel auteur, autant d'un point de vue stratégique que même d'un point de vue, voilà, c'est intéressant à lire, c'est intéressant à regarder. Et sinon, comme deuxième auteur, je conseille Neil Jomounci, qui est un autre indépendant français, je vous recommande beaucoup son site internet qui s'appelle, je pense, page42.org.
Ah oui, c'est pas mal.
Neil Jomounci, en fait, lui, sur son blog, il écrit parfois des conseils pour auteurs, mais aussi des choses plus thématiques sur l'écriture, sur la littérature. Donc c'est toujours intéressant à lire. Et après, d'un point de vue purement sur ce qu'il écrit, je sais qu'il s'est occupé d'un projet qui s'appelait le projet Bradbury, qui consistait, je pense qu'il a fait ça en 2014-2015, qui consistait à écrire une nouvelle par semaine pendant un an. Donc autant dire que c'est un travail énorme, d'autant plus que pour avoir lu certaines de ces nouvelles, c'est loin d'être une nouvelle de 10 pages. Enfin, c'est vraiment des choses conséquentes. Et du coup voilà, si vous n'avez rien à lire, je vous conseille d'aller voir Neil Jomounci parce que forcément, après avoir fait ça, il a énormément de nouvelles à proposer, il a énormément de textes en ligne, et c'est pareil, il est très très prolifique, très intéressant sur le marché francophone de l'auto-édition.
Je continue directement en enseigne. Tu n'es pas très vieux, tu as 27 ans, donc c'est l'âge où on a plein de projets et la vie devant nous se complexifie toujours un peu. Je crois même savoir d'ailleurs que tu vas bientôt voyager. Est-ce que d'abord un peu peut-être partager un peu tes projets en général, personnel ou professionnel. Et puis comment tu vois le site dans 2 3 ans, où est-ce que tu le vois?
Ah, c'est toujours délicat à dire. Bah, pour mes projets, bah oui, personnel, comme tu le dis, en fait, là, je m'apprête à partir dans l'Asie. Donc, autant dire que ça va faire, je vais partir plusieurs mois en Asie et ça va me faire pas mal de changements. Mais voilà, ça, c'est plus niveau personnel, professionnel. Voilà, je continue, je travaille en indépendant, donc je peux travailler à distance. Donc voilà, mais ça peut me prendre du temps, d'autant plus que mon travail consiste à écrire des articles. Donc ça, des fois, ça prend un peu le pas, sur mon blog, par exemple, parce que si j'écris des articles toute la journée, j'ai pas forcément envie d'en écrire d'autres, pour le souffle numérique. Mais voilà, en termes de projet vis-à-vis de ce blog, moi, j'aimerais forcément continuer. Je suis pas prêt d'abandonner ce blog, même si ces derniers temps, j'ai un rythme de publication bien plus lent. Mais voilà, non, mes projets, ça va être de continuer à écrire. Pour l'instant, je sais, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai un roman qui est en attente de correction. Ça fait plusieurs mois que je suis censé le corriger, mais que je traîne un petit peu et qui devrait être édité d'ici un an, ou peut-être moins.
Antidote, antidote,
Oui, c'est vrai qu'Antidote,
antidote.
très pratique. Et voilà, après, parallèlement, j'aimerais continuer justement à un peu suivre le monde de l'édition numérique, suivre. Je pense que dans les années à venir, il y aura toujours plus de choses intéressantes, toujours plus d'outils pour les auteurs et sûrement toujours plus de cas ou de stratégies pour les auteurs qui sont intéressés par le numérique ou par l'auto-édition.
Ben écoute, merci beaucoup, Eric. On a fait un peu le tour en gros du souffle numérique et de ta passion et le message que tu essayes de passer. Si tu devais choisir quelques derniers mots, qu'est-ce que tu dirais?
Bah, je dirais, écoutez, écrivez, publiez vos livres, profitez de la vie, et voilà.
Et voilà. Eh ben pareil, profitez de la vie et merci
Je
beaucoup, Pierrick Messiaen, d'être venu et de voir. Vraiment avec beaucoup de gentillesse. On sait pourquoi. Beaucoup de gentillesse d'avoir accepté de faire et de refaire cette interview. Et
merci pour l'interview.
merci à toi. Et puis donc vous retrouvez son blog site le souffle numérique. C'est en un mot, c'est attaché, soufflenumérique.com. Mais sinon, vous allez tout simplement taper souffle numérique sur Google et vous y arrivez directement. C'est en tête de gondole. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et c'est vraiment. Moi, je considère ça comme si vous voulez vous mettre à l'écriture, lisez un peu ces articles. Voilà. Et surtout à
Ah.
l'auto-édition. Oui, lisez ces articles, à la fois pour se mettre à l'écriture et ensuite par rapport à la fabrication elle-même des livres numériques. Mais franchement, il y a des tas de sujets dedans. J'ai partagé quelques-uns de tes sujets avec le forum de Saga MP3, figure-toi, parce que choisir ces personnages, il y a des trucs comme ça qui sont bien au-delà simplement de la simple l'écriture numérique, c'est l'écriture en général, et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et
Bah, merci pour le compliment en tout cas.
bravo, ça le mérite, c'est mérité. Allez, bonne journée, bonne matinée à tout le monde, et puis merci beaucoup, Pierre, encore une fois.